Bonjour, je m'appelle Soigny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de, pourquoi pas, retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Soigny Kanga, on est reparti pour un nouvel épisode dans cette voie d'exploration intérieure post-traumatique. Qui eût cru qu'il y ait tant à dire, tant à découvrir, tant de pierres à retourner? Qui eût cru que le trauma de l'enfance avait tant de ramifications dans nos relations amicales, amoureuses, dans notre carrière, mais aussi dans notre fonctionnement cognitif? Épisode après épisode, on remarque qu'après le trauma, on ne voit plus le réel, on voit encore le trauma partout, tout le temps, on régurgite son idéologie, bien que rien de cela ne soit transparent à nous-mêmes. Et puis le sujet du jour va le montrer à nouveau, puisqu'on va parler d'hostilité, abnégation et servitude, un fonctionnement qui est très éloigné de notre nature première, surtout en tant qu'enfant. Et lorsqu'on arrive à l'âge adulte, qu'on est échoué à l'âge adulte avec un besoin irrépressible de se soumettre, d'accommoder tout le temps, d'être conciliant par défaut, quelque chose s'est produit. Une forme de programmation qui alerte sur une cassure de la volonté première. Pour explorer ce sujet, c'est Pete Walker, psychothérapeute américain et auteur de CPTSD, From Surviving to Thriving, qui va nous servir de fil conducteur. On a appris avec lui précédemment qu'il existait plusieurs stratégies de survie. Les trois principales, les plus connues, sont lutter, se figer, fuir, et puis la quatrième, moins populaire, c'est plaire et apaiser. C'est une forme d'extrême gentillesse, de docilité, d'abnégation, de servitude, qui sent l'enfance, bien sûr, et on va aller plus loin dans cet épisode sur cette tentative de survivre à travers la soumission. Donc, pour rappel, les stratégies de survie sont, comme leur nom l'indique, utiles et salutaires. La particularité avec le stress post-traumatique complexe, le CPTSD, c'est qu'elles quittent la courte temporalité d'un danger précis et vont se prolonger dans le temps. Elles vont devenir une personnalité par défaut, puisque dans ce CPTSD, le stress et la survie sont presque toujours activés. Donc le traumatisé va utiliser le fight, flight, freeze and fawn comme réponse régulièrement, quasiment dans son quotidien. Et il va le faire parce qu'il n'a pas su développer d'autres réponses plus saines qui ne lui étaient pas offertes face à des dangers, qu'ils soient réels ou factices. Et donc là, ça devient sa riposte par défaut. Première stratégie, hein, pour faire un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est la lutte. Donc je lutte avec ma douleur en la fuyant dans le travail, dans l'hyperactivité, dans l'assertivité qui vient masquer ce que je ressens réellement, qui n'est pas l'envie de riposter, mais peut-être une vulnérabilité, quelque chose de plus fragile. Donc dans l'action permanente, je me fuis, cette douleur ne m'aura pas, elle me court après, mais je suis hors d'atteinte par cette hyperactivité. La deuxième stratégie, c'est la fuite. Donc ici, je ne lutte pas, je me dissocie. Je fuis dans l'alcool avec Netflix, je fuis ma douleur en m'anesthésiant, en me coupant de cette expérience physiologique consciente. La troisième, c'est l'immobilisation. C'est encore différent de la fuite, puisque dans la fuite, il y a du mouvement, alors que dans l'immobilisation, j'ai déjà renoncé à me battre, j'ai renoncé à lutter, je m'effondre, je tombe dans la dépression, dans l'apathie, et j'attends la fin. Et puis la dernière stratégie, on l'a dit, quatrième stratégie adaptative, c'est la docilité, fawning, plaire et apaiser. Elle est utilisée lorsque vous ne pouvez pas vous échapper, vous ne pouvez pas échapper à votre bourreau, notamment lorsque vous êtes un enfant et que vous évoluez dans un foyer abusif. Donc vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas lutter physiquement et parfois vous ne pouvez pas non plus vous dissocier parce que le parent ne vous le permettrait pas. Il a besoin d'un retour narcissique et d'une validation implicite de votre part. Ce n'est pas safe d'être coupé ou de vous désintéresser. Et donc lorsque aucune de ces autres stratégies n'est possible, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous tentez de neutraliser la dangerosité parentale en prétendant ne pas être un fardeau, ne pas avoir d'opinion, de besoin, de colère ou de peur. Vous devenez l'enfant facile, l'enfant utile, celui avec lequel il est évident de composer, hein, celui qui ne vous pose pas de problème, et vous entrez de force dans une forme de codépendance. Mais pas codépendance dans le sens où on l'a évoqué dans les épisodes précédents, c'est-à-dire dans le sens sentimental, parce que dans le couple, comme on l'a vu, il est requis d'être dans un lien de codépendance sain. Et la science vient en renfort pour nous le démontrer, on l'a vu, hein, si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous le recommande. Mais là, je vous parle de codépendance dans le sens traumatique du terme. C'est-à-dire que la codépendance, dans ce cas-là, c'est un syndrome d'auto-abandon, de totale abnégation. C'est une codépendance qui prend racine dans la peur, qui vous prive de la capacité d'exprimer vos besoins. Donc cette codépendance, elle n'a rien à voir avec l'illusion de dire « je n'ai besoin de personne, je suis indépendante ». C'est plutôt un trouble de l'assertivité qui se développe lorsque la capacité de lutte, de riposte, de protestation d'une personne n'a pas pu être développée, notamment lorsque ses parents l'ont entre guillemets maté en développant sa passivité, en le poussant à accepter d'être exploité, abusé et négligé. Donc là, ça devient pavlovien. Donc la docilité extrême se développe lorsqu'un enfant a été entre guillemets domestiqué au point où ses connexions neuronales ont été modifiées et que pour lui, céder, arranger, accommoder est ce qui va lui procurer une forme de sécurité psychique. C'est la seule manière pour lui de recréer une protection autour de sa personne, s'occuper des autres au détriment de ses besoins, afin d'éviter que le monde ne se défasse. Et donc c'est quelque chose qui se fait très tôt dans l'enfance, si tôt qu'on ne se souvient jamais avoir existé différemment. Si vous avez été abusé de la sorte, dès vos toutes premières années, ce mode de fonctionnement pour vous s'est développé de manière aussi naturelle que le fait de respirer. Et c'est plutôt le fait de sortir de ce modus operandi qui vous procure de l'anxiété. Donc dire non, prendre de l'espace avec vos besoins, tout cela vous met en mode panique parce que le faire enfant aurait été dangereux pour vous. Et donc pourquoi ça vous impacte encore aujourd'hui? Si vous êtes un auditeur régulier, vous le savez, le trauma va laisser des déclencheurs dans votre cerveau, derrière lesquels se trouvent des souvenirs traumatisants. Et donc vous faire crier dessus est un déclencheur, un bouton qui va réactiver cette émotion, qui vit à l'état de fragments de façon un petit peu désordonnée dans l'esprit. Et que se passe-t-il quand ça arrive? Et bien, vous repartez dans votre type de survie prioritaire que vous avez développé dès l'enfance, la fuite, la lutte, etc. C'est pour ça que la thérapie, les livres, l'introspection, tout cela est utile pour vous éloigner de ces réactions primitives qui ne sont plus efficaces aujourd'hui et qui ne sont plus adaptées à votre vie d'adulte. Donc se taire, se soumettre, c'est parfois vital pour un enfant de 4-7 ans et complètement problématique à 40. Sauf que tout cela est collé et il s'agit de désautomatiser ces réponses instinctives qui pensent encore vous protéger alors qu'elles vous figent et elles vous rendent prisonnier. Et en thérapie, en général, vous travaillez à développer d'autres réactions que de se terrer dans le mutisme ou d'exploser dans une colère folle. Vous apprenez à exister différemment dans les rapports aux autres et puis à vous restituer progressivement à vous-même. Donc bien évidemment, c'est pas automatique, il faut aller le chercher, il faut aller le travailler. Et donc il est compliqué de perdre ses habitudes de servilité et de docilité. Et Pete Walker a beau être un psychothérapeute spécialisé dans le CPTSD, il n'est pas étranger non plus à tous ces phénomènes qu'il décrit. Ce qui rend ses travaux d'autant plus parlants, lui aussi est traumatisé, lui aussi souscrit à la catégorie docilité plaire et apaisée, et il a eu une épiphanie un jour autour de ces sujets, en butant contre une chaise un beau matin, et en s'observant demander pardon à la chaise. Donc il marche, il bute contre une chaise, et puis son premier réflexe c'est de dire pardon. Il était tout seul, il était face à un objet inanimé, et bien évidemment ça l'a rendu furieux, furax, parce qu'il a réalisé à quel point son enfance l'avait reprogrammé, en machine pathologique à s'excuser, au moindre changement autour de lui, qui échappait à son contrôle, ça pouvait être les humeurs des autres, leurs erreurs, la météo, il ressentait une profonde anxiété qui provoquait un flashback émotionnel, une réminiscence de son enfance et du rôle qui lui était assigné alors. Buter contre une chaise lui a rappelé l'enfant qui anticipait la punition dès qu'il touchait quelque chose d'interdit ou créait un désordre et donc automatiquement l'a poussé à demander pardon. Donc ce qu'on appelle en anglais le fawning response, ça consiste à flatter, à agir de manière servile, soumise, passive, docile. Et pour Pete Walker, c'est cette réponse traumatique qui est à la source de pas mal de comportements codépendants. L'enfant apprend que protester, donc lutter comme stratégie, engendre une trop grande mise en danger, une réponse houleuse des parents en général. Et c'est la raison pour laquelle il ne se développe pas ce fight response chez cet enfant qui va ensuite être docile. Donc cette assertivité, ce non, sont retirés de son vocabulaire. Et donc si vous ne savez pas dire non, comprenez que vous n'êtes pas né passif, on vous l'a inculqué, on vous l'a imposé. Et donc si votre environnement familial avait été équilibré, vous auriez eu cet outil dans votre palette, la capacité à être en désaccord et à être en paix. Puisque l'enfant a appris qu'il ne pouvait pas fuir ni lutter, eh bien son inclination naturelle pour ses stratégies n'a pas pu se développer et il ne restait que la docilité comme moyen, comme rempart. D'ailleurs, Pete nous dit que beaucoup d'enfants qui aimeraient fuir un foyer abusif ne le peuvent pas, bien évidemment, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et qu'ils vont développer une forme d'hyperactivité. Comme si tourner en rond était une réplique de ce qu'ils ne peuvent pas faire, fuir, s'en aller. Et cette hyperactivité les aide à fuir, se détacher d'une douleur intérieure, en les rendant absents à eux-mêmes. Un enfant va utiliser une stratégie de survie pour répondre à ce stress. Par exemple, les personnes qui utilisent la fuite vont développer à l'âge adulte des comportements compulsifs comme le travail acharné, le fait d'être toujours occupé, de faire des dépenses de manière compulsive, d'avoir une addiction au sexe ou à l'amour. C'est une manière donc de se fuir. Ils continuent adultes cette stratégie. Ceux qui sont dans l'immobilisation vont avoir une autre approche. Ils vont essayer d'échapper à la douleur par la dissociation, pour oublier l'abus, pour s'anesthésier. Donc ça va être l'alcool, ça va être la drogue. Et donc dans le cas de la quatrième stratégie qui est la docilité, l'enfant abandonne toutes ses réponses qui ne sont pas disponibles et va opter pour la flatterie et se délaisser pour ne devenir que l'écho de ce que ses parents exigent de lui. C'est de cette manière qu'il apprend que sa servitude est une monnaie d'échange viable pour créer une paix reconstituée. Une paix qui est absente du foyer autrement pour lui. Il renonce à tout besoin. Il ne sait même plus parfois les identifier à force de s'en être détaché. Et il se déleste de tout ce qui pourrait causer une gêne à ses parents, donc sa vulnérabilité, sa sensibilité, son besoin de protection, d'appartenance, tout cela part en fumée. Donc il n'y a plus de préférences et d'opinions affichées en dehors de la sphère de la satisfaction parentale. Sa sécurité est égale à son utilité et à sa capacité à être invisible, à prendre soin des autres pour ne pas encombrer les figures d'autorité. Et Pete Walker de se demander combien de psys comme lui le sont devenus de cette façon, à travers cette stratégie. Et donc le phoning, c'est la perte du sens de soi. Les contours de soi, ce sont nos besoins. C'est ce qui nous différencie des autres. Et donc si vous les retirez, vous n'avez plus conscience de votre individualité. Tout devient pour eux et les injonctions extérieures deviennent un curseur de remplacement. Et donc si vous n'êtes pas éveillé à vos besoins de calme, de douceur, de routine, de tranquillité, etc. Comme la nature a horreur du vide, cet espace délaissé est phagocyté immédiatement par les besoins de votre entourage. Donc c'est ça le phoning, c'est ça la docilité. Ça revient à dire que notre sécurité est créée par la capacité que l'on a à lire les émotions des autres afin d'échapper à l'anxiété, à l'angoisse, au chaos. Donc si une mère colérique vocifère devant un enfant de 5 ans, il ne peut pas penser que le problème vient d'elle, hein. L'adulte est trop grand, trop impressionnant, trop puissant, c'est forcément lui le responsable, d'ailleurs il est encore à ce stade narcissique naturel qui lui fait penser que tout tourne autour de lui, c'est un narcissisme qui va se dissiper naturellement lorsqu'il va apprendre qu'il doit négocier une forme de paix sociale avec les autres, prendre l'autre en considération, etc. Donc si ses besoins ne sont pas nourris, il va rester dans ce stade narcissique toute sa vie, mais toujours est-il que donc l'enfant se convainc d'être responsable de la frustration de ses parents et tente de la calmer en s'accommodant, en se métamorphosant, en se changeant, en se renonçant. Dans cette codépendance, toute source de danger déclenche des comportements de survie, et donc ici, ça veut dire une abdication de ses droits et de ses besoins, hein. Il renonce à ses droits naturels parce qu'il sent que autrement son acceptation serait menacée. Et donc c'est tragique parce que sur le plan psychologique, nous dit le spécialiste canadien Gabor Maté, un enfant a besoin de manière viscérale non seulement d'une figure d'attachement stable et sécure, mais aussi d'une totale acceptation de qui il est sans aucune condition. Il a besoin de pouvoir explorer toutes les palettes des émotions humaines, donc y compris la colère et la frustration, qui sont parfaitement attendues et naturelles, et il doit apprendre à manœuvrer ses émotions avec l'assentiment de ses parents. Il ne doit surtout pas faire d'efforts pour être aimé, il ne doit pas travailler à convaincre ses parents de son acceptabilité. Et on voit comment cette stratégie est calamiteuse pour son estime personnelle, puisque ce qu'il apprend avec ses parents, il va l'appliquer à tout le monde ensuite. Il ne viendra plus nu vers les autres, il sera toujours en train de se remasteriser, de se métamorphoser, de s'adapter en permanence à son environnement. Donc le message c'est tu ne conviens pas, tu es responsable de ce qui se passe autour de toi, et c'est rendu encore plus tragique par l'impact qu'un tel auto-rejet a sur la santé physique, hein, puisque comme on le verra avec Gabor Maté lorsqu'on explorera son livre « Mythe de la normalité », le corps et les émotions ne sont pas séparés, vos émotions agissent sur vos hormones qui agissent sur votre système immunitaire, et donc cette abnégation, cette coupure d'avec ses besoins réels affecte notre santé inévitablement, comme toutes nos émotions d'ailleurs. Et donc lorsque vous êtes conditionné de cette manière, vous êtes docile, vous êtes une personne loyale envers votre entourage, puisque vous cherchez à recréer ce sens de sécurité vers votre utilité, votre docilité, même si finalement le reward, la récompense est occasionnelle, même si votre entourage vous maltraite. Votre réponse adaptative est davantage liée à ce câblage neuronal dont on a parlé, plutôt qu'au comportement des autres, le comportement avéré. Plus ils sont abusifs et violents, plus vous augmentez votre dose de docilité dans l'espoir d'aplanir les choses. Donc lutter, qui serait ici approprié, n'est pas votre réponse disponible. Si on vous attaque, vous accommodez, vous arrondissez les angles plutôt que d'utiliser cette réponse occasionnellement sans que cela ne vous coûte autant. C'est votre go-to, donc, quand on vous menace, quand on vous malmène. On peut avoir des stratégies secondaires, hein, mais si votre réponse première, c'est la docilité, eh bien, ça veut dire que c'est la seule ressource disponible sur le plan cognitif pour vous lorsque vous vous sentez en danger à cause de l'apprentissage que vous avez eu dès l'enfance. Et donc, c'est intéressant de se demander dans votre entourage quelles sont les personnes qui vont vous pousser à vous adosser à cette stratégie. Si à chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous avez tendance à vouloir vous aplatir plutôt que de vous juger durement, peut-être pouvez-vous vous interroger sur les raisons de cette réactivation à travers cette relation. On rappelle que le fawning est donc créé par un abandon parental qui est extrême. Et qu'est-ce qui, dans cette dynamique, va en réactiver le souvenir ? Pete Walker nous dit qu'un enfant très négligé expérimente le manque de connexion comme étant traumatisant et va donc répondre à cette anxiété en surdéveloppant la docilité. Et donc peut-être que cette relation qui vous pousse à être docile vous rappelle cette indifférence parentale. Toujours est-il que lorsqu'un enfant réalise qu'être utile et ne rien demander lui fait obtenir une attention de la part de ses parents, eh bien il développe et automatise le mécanisme de la codépendance. Et donc dans les conversations, ça donne quoi ? Ça donne des personnes qui cherchent l'acceptation en écoutant, qui invite l'autre à parler plutôt que de risquer d'exposer ses pensées et ses sentiments, qui pose des questions pour garder l'attention hors d'eux-mêmes, parce que leurs parents leur ont appris que parler était dangereux, que leurs mots pouvaient se retourner contre eux, et qu'ils pouvaient prouver qu'ils étaient donc indignes et n'avaient pas de valeur. Le fonctionnement implicite ici, c'est de se dire que c'est plus safe d'écouter que de parler, c'est plus safe d'être d'accord, d'offrir de l'aide et non d'en demander, et de laisser l'autre en monologue plutôt que de s'exprimer, de laisser le choix à l'autre plutôt que d'exprimer des préférences, parce que c'est la manière vague dont ils arrivent à répondre à leurs besoins en s'occupant des autres. Et donc vous remarquerez que si la docilité est votre stratégie de survie prioritaire, tout le monde ne l'active pas forcément. Les personnes avec lesquelles vous vous sentez totalement sécure ont une version différente de vous, vous pouvez même leur couper la parole, objecter, débattre avec férocité, comme si vous aviez un autre aspect qui s'activait à ce moment-là, et on voit bien avec cette alternance qu'il s'agit d'une stratégie et non de votre nature réelle. Votre nature réelle, elle apparaît lorsque vous êtes en sécurité, que vous ne vous sentez pas menacé. Lorsque vous vous sentez menacé, ce que l'on voit, c'est un mécanisme de survie qui est instinctif et qui est propre à notre espèce, qui est donc impersonnel et indifférencié. Je le vois moi-même avec ma combinaison fight-fawn, hein, lutte-docilité, qui est ma stratégie prioritaire et secondaire. Je peux être très grande gueule et assertive, ou à l'opposé, trop accommodante et conciliante au détriment de mes besoins. Mais dans un environnement qui est 100% sécure, tout cela disparaît. Je deviens assertive, mais de manière équilibrée et à l'écoute de l'autre, et je suis douce tout en fixant efficacement des limites. Et puis Pete Walker se demande ce qui se passe si vous mettez donc deux personnes dociles dans un first date. Est-ce que la personne dit « tu choisis le film ?»« Non, c'est toi. »« Mais non, mais moi c'est bon, je suis easygoing, j'aime tout. » Donc une habitude prise de laisser les autres mener la danse pour ne pas être rejeté si on apparaît sans masque. Il existe trois alliages, trois combinaisons possibles de réponses adaptatives autour de cet écosystème de la complaisance et de la docilité. Donc les réponses lutte, fuite et immobilisation ont trois manières de se mêler au fawning. On a la combinaison docilité-immobilité, docilité-fuite, docilité-lutte. Et on va expliquer de quoi il s'agit. Donc docilité-immobilisation, c'est une manière d'être dans la docilité, mais d'être le bouc émissaire. Et c'est la manière la plus codépendante d'exprimer ce trait de fawning. Tous les boucs émissaires ne sont pas de ce sous-groupe, mais comme les dociles et ceux qui s'immobilisent sont enclins au déni vis-à-vis d'eux-mêmes, eh bien ils se retrouvent souvent dans le rôle du bouc émissaire. Parce que ce sont les plus passifs des différentes stratégies, et ils sont passifs parce qu'ils ont reçu le plus de rejets et le plus de punitions pour avoir tenté de s'affirmer dans l'enfance. Donc ils ne sont pas capables de sortir de la bouquémérisation et ils se font prendre à partie à l'âge adulte en général par les fight type, donc les pro-luttes, qui vont les rendre captifs. Et ils en font un peu leur béni oui-oui. Et souvent les boucs émissaires finissent dans des situations d'abus domestiques, de violence conjugale. Et c'est un peu compliqué parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément eux-mêmes, ils ne sont pas conscients d'être dans des situations d'abus. Au lieu de ça, ils s'accusent eux-mêmes, hein, là, comme ils faisaient dans l'enfance. Et beaucoup de narcissiques savent quand les arroser d'attention lorsqu'ils sont sur le point de vouloir partir. Et lorsqu'une personne narcissique va se montrer charmante, elle va savoir donner la chaleur travaillée, trafiquée, occasionnelle, mais la chaleur quand même à cette personne qui souvent n'en a jamais reçu autant dans toute son enfance. Et lorsque la personne a mordu à l'hameçon, cette chaleur disparaît et il les affame sur le plan affectif pour les contrôler. Et donc ces personnes ont tellement été obligées de renoncer à leur instinct de protection qu'elles se retrouvent piégées dans un sentiment d'impuissance acquise. Les dociles immobiles, ce sont ceux qui vont vous dire « je suis désolé » alors qu'ils subissent vos actions parce que leurs parents l'ont appris à s'excuser, notamment de les avoir prétendument poussés à les punir. Vous voyez comment ça s'en mêle déjà depuis l'enfance. Donc ce qui est important pour eux en thérapie, c'est d'apprendre comment leur enfance les a piégés à se retrouver dans ces situations d'abus, souvent difficiles d'ailleurs, parce qu'ils ont du mal à se plaindre, ils ont du mal à se voir comme des victimes, même lorsqu'ils sont frappés. Et donc le rôle de Pete Walker, c'est de les aider à voir à quel point ils ont été victimes dans l'enfance. Et puis la deuxième sous-catégorie de docilité, c'est la docilité fuite, c'est la super infirmière. C'est l'infirmier ou l'assistant qui va bosser du matin au soir en s'occupant des besoins de tout le monde, dans son foyer, et puis dans sa boîte et dans son entreprise, et pas vraiment des siens. Un peu une forme de mère Teresa qui échappe à la douleur de son auto-abandon en se voyant comme la parfaite aide aux autres dans l'auto-abnégation. Elle se distancie de sa douleur en passant d'une personne dans le besoin à l'autre et elle projette parfois son perfectionnisme sur les autres. S'auto-proclame en quelque sorte conseiller, conseillère et va parfois être envahissante avec ses conseils dans son entourage. Et donc le but pour ces personnes, c'est d'apprendre que prendre soin des autres ne veut pas nécessairement dire régler leurs problèmes. Surtout quand la personne que l'on tente d'aider est dans la douleur, la plupart du temps dans ce cas-là, elle a simplement besoin de notre empathie, de notre acceptation, de l'espace qu'on peut donner à sa douleur et de la possibilité de se relâcher sur le plan verbal. Et Walker précise également que certains états ont simplement besoin de temps pour guérir et qu'il faut donc laisser les gens se sentir mal et simplement accepter de les aimer de cette manière et puis accepter également qu'on a tous des limitations. Et puis également accepter que certaines limitations ne sont pas transformables, donc ne pas mettre de pression à nos proches pour toujours être en train de guérir. Et pour sa part, Pete Walker, lorsqu'il donne des conseils, les accompagne de take it or leave it, un petit peu à prendre ou à laisser, histoire de ne pas revenir dessus en permanence, hein, il les donne une fois et pas deux, et puis il s'assure surtout que la personne devant lui ait envie de ce feedback. Et puis troisième sous-catégorie de la docilité, c'est la docilité lutte, la mère envahissante. Elle peut être agressive, cette personne, dans sa tentative d'aider les autres, parce que pour elle, aider veut dire changer, et donc elle peut aliéner son entourage en exerçant une pression dans le but de les forcer à suivre ses conseils. Et cette sous-catégorie est beaucoup trop focus sur son entourage, hein. Elle répète son rôle de serviteur de l'enfance dans le présent, même si son utilité est moins égoïste que la catégorie du dessus. Mais son zèle va donner l'impression qu'elle vous aime à la folie. Et puis lorsqu'elle a un flashback, cette personne va devenir manipulatrice, coercitive, et va exiger que vous vous conformiez à ce qu'elle attend de vous, ou alors se frustrer. Ça peut même parfois être apparenté à du trouble borderline, sauf que la différence, nous dit le psychologue, c'est que le trouble borderline s'accompagne d'un narcissisme qui n'est pas présent là, dans cette catégorie docilité-lutte. La personne cherche réellement l'intimité. Et donc comprendre comment le rôle que distribuent les parents dans l'enfance influence notre comportement est la clé de beaucoup des patients de Pete Walker, puisque leur codépendance vient de ces constantes attaques de leur figure d'autorité, de la honte qu'elles projetaient sur eux lorsqu'ils osaient émettre un besoin, une préférence, quelque chose qui était tout de suite taxé d'égoïsme, y compris lorsqu'il s'agissait de quelque chose de très basique. Au point où, lorsqu'ils s'intéressent à eux aujourd'hui, ça les met en panique, en anxiété, ils ne se sentent pas légitimes à le faire à cause de cette programmation. Ils ont peur d'être attaqués dans leurs droits, et donc ça les pousse à renoncer à leurs limites, à leurs besoins, etc. Et donc comprendre cette dynamique est nécessaire, mais c'est pas suffisant, puisqu'il faut encore ensuite appliquer l'assertivité. Et Pete Walker a pu remarquer que durant ses dates, par exemple, il se plaçait lui-même, malgré tout son bagage intellectuel, dans le rôle, inconsciemment, hein, du super écoutant. Il n'avait pas grand-chose à dire sur lui-même, en tout cas pensait-il, et il a eu du mal à briser ce pattern, cette habitude, même en tant que professionnel. À chaque fois qu'il essayait de parler de lui, ça l'activait, donc il préférait se dissocier. Et donc il régressait dans cette sécurité factice qui consiste à s'effacer, à s'invisibiliser, et puis à laisser la place à l'autre, parce que c'est plus safe sur le plan de l'identité. Et donc sa psy lui a donné des petites astuces, notamment mettre des mots-clés sur sa paume de main pour reconnecter son cerveau gauche, le cerveau rationnel, pendant ses dates et pour l'empêcher de basculer dans le trigger donc, qui vient du cerveau émotionnel. Mais il a surtout compris pourquoi il avait tendance à attirer les narcissiques les uns après les autres. Ces personnes le choisissaient parce qu'il les laissait être dans leur monologue. Et il pense avoir sûrement rencontré des personnes sympathiques et équilibrées, mais qu'ils n'ont pas rappelé parce qu'elles n'ont pas vu de relief, parce qu'ils se cachaient et qu'il était dur à percevoir réellement. Et comment on sort de ce piège consigné dans nos cellules ? Eh bien la réponse, selon lui, c'est d'apprendre à cohabiter avec la peur. Comprendre que si vous êtes un people pleaser et que votre cerveau est endoctriné pour servir, à chaque fois que vous tenterez de vous extirper de ces mécanismes, votre cœur va accélérer, vos mains seront moites, votre voix va trembler, votre cerveau aura l'impression que vous vous mettez en danger comme si vous aviez 5 ans face à un parent tout puissant. Et pourtant, nous dit-il, la peur est le chemin. Feel the fear, but do it anyway. L'assertivité se pratique, et comme la première fois que vous faites quoi que ce soit sans expérience, eh bien les premiers résultats seront hasardeux, médiocres, calamiteux peut-être, mais sortir de ce phone type implique de ne plus se dissocier de l'inconfort et de s'entraîner à développer un autre répertoire comme réponse à l'anxiété. Donc en d'autres termes, confronter la peur de se révéler, d'être vu. À l'époque, on était trop petit pour être assertif, mais ce corps d'adulte, sa voix d'adulte, sa puissance d'adulte doivent rassurer lorsqu'on est face à un trigger. Le trigger va passer, son illusion d'insignifiance passera avec lui, et on va pouvoir composer rationnellement avec tous ces déclencheurs en apprenant à protester, en apprenant à utiliser d'autres stratégies, utiliser la stratégie de lutte et donc d'assertivité. Et ce sens de soi donc se construit. Dans la pratique, on utilise le cerveau rationnel qui nous dit de nous imposer. On anticipe que le cerveau émotionnel va déclencher un tas de signaux biaisés et on avance malgré tout. On développe une réponse de lutte saine, une affirmation de soi, avec le courage nécessaire que l'adulte peut désormais mobiliser. Et l'objectif, c'est de développer des relations qui seront équitables, qui seront réciproques et à l'intérieur desquelles vous apparaîtrez pour qui vous êtes réellement. Et donc on peut s'entraîner mentalement, nous conseille-t-il, on peut repenser à des moments du passé, par exemple, où on a été docile au lieu de s'affirmer, et refaire la scène en mode averse, avec de l'insertivité, de l'affirmation de soi, pour renforcer ce muscle intérieur, même si y repenser peut être parfois activant hein, à ce passé où la docilité était de mise. Rester présent dans cette affirmation de soi à travers des jeux de rôle. Et donc le but de tout cela, c'est apprendre à ne plus fuir la peur, la ressentir, ne pas la considérer comme un obstacle valable pour arrêter. Et plus le cerveau vous verra faire, plus il vous laissera dupliquer l'expérience, puisqu'il s'apercevra que la mort ou l'annihilation n'a pas eu lieu. Et vous pourrez progressivement, dans votre processus, refuser de trop donner, de trop faire de compromis, mieux gérer les flashbacks émotionnels, moins compatir avec les opinions de tout le monde autour de vous. Donc vous apprendrez à rester présent à l'intérieur de vous-même. Beaucoup ont survécu en étant branchés sur leurs parents pour savoir ce qui pouvait les apaiser. Certains à la limite de la médiumité, hein, tellement leur scanner, leur capacité à scanner les émotions, les attentes et les humeurs est grande. Mais il s'agit aujourd'hui de déconstruire ces processus en apprenant à rester dans leur propre expérience corporelle, leur propre expérience cognitive, plutôt que de constamment projeter leur attention à l'extérieur pour lire ce que les autres pourraient attendre d'eux. Et l'auteur a d'ailleurs observé que le degré avec lequel un patient essaye de lui plaire est proportionnel au degré de dangerosité qu'avaient ses parents. Et guérir implique de devenir conscient de toutes ces projections, de cet effet miroir qui consiste à matcher émotionnellement ce qui se passe autour de nous et réduire l'habitude d'être d'accord avec son entourage. Réduire le mimétisme verbal donc comme premier accomplissement, mais aussi réduire le mimétisme émotionnel lorsqu'il est inauthentique. Donc qu'est-ce que c'est que le mimétisme dysfonctionnel ? C'est celui qui consiste à prétendre être amusé lorsque quelqu'un a fait preuve de sarcasme et vous a blessé. Ou alors rester accommodant et aimant vis-à-vis d'une personne qui vous punit symboliquement. Ou encore pardonner lorsque quelqu'un est blessant de manière répétitive. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose de dysfonctionnel parce que la réaction authentique ne correspond pas à celle que vous exercez à ce moment-là parce que vous êtes prisonnier d'une stratégie de survie. Sortir de ce comportement implique un travail d'individuation émotionnelle. Et là, c'est le moment de parler de la pleine conscience, de l'introspection, de la méditation qui permet d'exister en tant que soi pour soi, de prêter attention à ses signaux subtils, à son corps, à ses humeurs, à son état, pour créer cette individuation. Dans la guérison, donc, on apprend à mettre la limite qui nous permet de rester vrai avec notre propre expérience émotionnelle. Et puis plus on avance dans cette guérison, plus on a la capacité à exprimer l'attitude qui correspond à notre émotion réelle. C'est-à-dire que on peut être empathique, on peut pleurer et rire avec les autres, mais on peut résister aussi à la pression de prétendre que l'on ressent toujours la même chose que les autres. Donc l'individuation consiste à ne pas rire lorsque ce n'est pas drôle, et lorsqu'un ami est down, à ne pas prétendre que vous l'êtes également, mais savoir faire preuve d'empathie tout en restant ancré dans votre propre émotion. Et dans son expérience thérapeutique avec ses patients, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'avoir l'air déprimé lorsque eux l'étaient, que ça n'aidait pas le processus thérapeutique, qu'il pouvait faire preuve d'empathie tout en restant à sa place et dans l'expérience physique qui était la sienne. Il y a tout un travail de guérison à faire pour en arriver à ce stade-là, sachant que donc la guérison est un continuum, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Et lui, qui a donc été l'auteur d'un des livres les plus lus dans l'univers de la psychologie, explique avoir dû attendre une trentaine d'années avant de réellement être à l'aise avec cette histoire de codépendance et se sortir de certains mécanismes, et se sentir sécure, se détacher du besoin d'approbation. Malgré toute la connaissance, dans la pratique, il lui a fallu quand même plusieurs décennies pour asseoir le détachement face à la désapprobation des autres, et c'est important, c'est même clé que tous ces docteurs, psychologues, psychiatres partagent avec nous leurs errances pour ne surtout pas se charger de fardeaux supplémentaires en estimant ne pas guérir assez vite, ne pas se détacher assez vite. Si vous êtes un people pleaser et que vous accommodez et que vous servez votre entourage, connaître tous ces mécanismes, c'est surtout se libérer de la culpabilité. Il est normal de ressentir de la colère et de la frustration, mais je pense qu'il est plus pertinent de placer cette colère sur l'enfance, qui a retiré le droit de dire non, la capacité à se défendre, plutôt que sur ce qu'on a essayé de faire pour survivre dans cette condition. Et donc ces podcasts, ces livres, la thérapie, tout ça, ce sont des outils qui viennent se greffer sur ce qui a été carencé pour nous désincarcérer de ces couches traumatiques avec le temps. Et donc pour l'auteur, ça a pris des décennies. Donc on peut prendre ça en compte pour relâcher une forme de tension ou d'exigence, à guérir plus vite, à appréhender plus vite toutes ces notions qui restent complexes, même pour les professionnels de la santé mentale. Et donc on va poursuivre cette réclamation de soi dans le prochain épisode avec justement le Canadien Gabor Maté, qui est une de mes découvertes les plus récentes et les plus stimulantes, auteur à best-seller. Il a notamment écrit un livre qui a été traduit en français qui s'intitule « Quand le corps dit non ». Et dans ce livre, il se demande par exemple si un certain type de personnalité mène à un certain type de maladie. Surtout son dernier livre, « Le mythe de la normalité, trauma, maladie et guérison dans une culture toxique ». On verra ce que c'est qu'une culture toxique, ce que c'est que la culture toxique qui est la nôtre, puisque selon lui, une culture qui n'est pas conçue pour répondre à nos besoins affectifs les plus primaires est nocive. Donc finalement, on va pouvoir voir comment l'étude du trauma peut nous mener à une remise en cause beaucoup plus profonde de notre société en général. Et donc pour avoir la réponse à tout cela, il faudra écouter les prochains épisodes du Côté de chez Swan. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à en parler autour de vous. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt du Côté de chez Swan. Au revoir.